Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foots, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foots, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Merci de suivre ce magazine Okapi Service partout où vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières. Merci à vous qui nous suivez sur www.radiookapi.net. De nombreux employés ne bénéficient d'aucune mesure de sécurité et de protection de leur santé au lieu de travail. Conséquence, plusieurs connaissent des accidents de travail et des maladies professionnelles. Et pourtant, l'employeur est tenu de prendre les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et informer et former ses salariés sur ces risques. Alors, quelles sont les normes de sécurité et de santé à observer au travail? Yvon Kalenga est spécialiste en psychologie du travail. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, Yvon Kalenga, parlez-nous de ces normes de sécurité et de santé au travail.
Merci beaucoup pour la question que vous me posez. Parler de normes, les normes sont spécifiques hein, pratiquement à chaque emploi, à chaque secteur d'activité. Et pour mieux me faire comprendre sur la question de normes, c'est que tout au départ, on se fixe d'abord des objectifs de sécurité. Vous allez réaliser ou vous rendre compte que, de par les entreprises qui existent au monde, on parle de la sécurité, on parle des mesures de sécurité, on parle de la tolérance zéro en termes de sécurité. Parce que l'homme est au centre de toute activité, c'est finalement l'homme qui est le moteur de la production. Comme il est le moteur de la production, ce qui fait que tous les secteurs dans lesquels travaille l'homme, ces secteurs est managé de telle sorte où ce secteur prend naissance avec la présence de l'homme. Pour dire chaque secteur, les activités doivent répondre à l'homme. Pour dire que l'homme, c'est-à-dire l'équipement est fonction de, par exemple, de mensuration de l'homme. On ne peut pas faire un équipement qui a, par exemple, qui ne respecte pas les données anthropométriques ou les données de la mensuration de l'homme. Alors, chaque secteur d'activité met en principe des normes qui mettent cette personne à ce que cette personne ne rencontre pas des accidents pour que la sécurité ou le nombre de sécurité ou les objectifs de sécurité soient égales à zéro. Alors, mais selon la classification de l'Institution nationale de recherche scientifique en Europe, oui, on a pu mettre au point un ensemble de 17 mesures répondant pratiquement à chaque secteur. Il y a des secteurs dans lesquels les personnes doivent protéger, par exemple, leurs pieds, leurs jambes. Il y a des secteurs où l'homme travaille en hauteur, des secteurs qui sont liés à la circulation, par exemple, des engins lourds. Alors, chaque secteur prend des dispositions pour permettre à ce que l'homme soit dans de très bonnes conditions et produise suffisamment, parce que l'objectif d'une entreprise, c'est produire et produire suffisamment. Voilà comment je pourrais, dans un premier temps, répondre à cette question de normes. Donc, s'il faut parler de normes, il faut aller dans chaque secteur pour préciser les normes de sécurité. Mais de manière générale, l'objectif, c'est d'atteindre zéro accident et zéro maladie professionnelle.
Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est d'atteindre zéro accident professionnel. Mais qu'est-ce qui fait que dans bon nombre d'entreprises, d'après les informations reçues, dans bon nombre d'entreprises ici chez nous, toutes ces normes ne sont pas du tout observées?
Oui, je crois que quelque part, l'État doit être responsable, parce que c'est finalement l'État qui légifère sur la question de sécurité au travail. Et l'État a ses propres inspecteurs pour pouvoir vérifier la faisabilité ou l'applicabilité de ces normes. Il s'est fait malheureusement que je ne sais pas, par une absence d'inspecteur ou par négligence, ce qui fait que ces entreprises n'arrivent pas à respecter ces normes-là. On ne peut quand même pas travailler dans un environnement, par exemple, pathogène, un environnement biologique, et trouver des gens travaillant dans cet environnement sans gants, sans bottes, ainsi de suite.
Oui, parce Yvon,
que le corps est assez fragile par rapport à des contacts.
Yvon, prenons par exemple ceux qui travaillent dans les entreprises minières. Quels sont les... on apprend souvent il y a des éboulements, il y a aussi des tas de choses qui se passent là-bas. Alors, quelles sont les normes des sécurités et des santé à observer dans ces types d'entreprises?
Oui, dans les entreprises minières, la première des choses, c'est que si c'est une mine souterraine, il faudrait que les constructions ou les corridors qui mènent vers ces mines-là soient faits à matériaux durables, donc des matériaux qui peuvent résister à une secousse tectonique, par exemple. Et ces matériaux-là, je parlerai de la résistivité. La résistivité, c'est un coefficient qui donne un pouvoir, par exemple, à un métal de résister face à un secousse quelconque, à un bouleversement quelconque. Et l'État est censé, pendant que des constructions comme celle-là sont en train de se faire, de vérifier si l'équipement qui a été utilisé, c'est un équipement qui peut résister à cet environnement et pouvoir protéger la personne. Ça, c'est la première. Donc, déjà, dans le contrôle technique, dans la mise en service d'une mine, par exemple, d'une mine souterraine, donc tous ces paramètres doivent être réunis. La résistivité, l'aération, le moins de bruit possible, la chaleur possible acceptable par le corps humain dans ce secteur-là. Une fois qu'ils sont vérifiés et qu'ils répondent réellement aux normes standards telles que c'est recommandé, alors la suite suivra. Et la suite, c'est finalement quoi? Équiper l'individu lui-même. Parce que d'une part, la sécurité est par rapport à l'entreprise et d'autre part par rapport à l'individu. Il faudrait que ce qui est construit pour, disons, ce qui entre dans la construction d'une mine souterraine puisse être protecteur par rapport à l'individu et que l'individu aussi soit protégé par rapport à cette structure-là.
Oui, on apprend souvent que c'est dans ces genres d'entreprises, on est souvent en contact des minerais, il y a des radiations, il y a des émissions parfois qui peuvent être néfastes.
Oui, à coup sûr. Par exemple, quand vous entrez dans une mine où il y a de l'uranium, on sait que l'uranium altère pratiquement le patrimoine génétique de tout agent. Et dans un tel environnement, on est censé être protégé. Il y a la Commission nationale à l'énergie atomique qui a ses inspecteurs et qui font l'inspection de lieux comme cela. Dès qu'on détecte que le rayonnement ionisant, par exemple, de l'uranium peuvent avoir une atteinte biopsychique sur un individu, bon, la mesure à prendre, c'est limiter ou chercher un équipement qui peut répondre à une situation comme celle-là.
Et d'après les informations reçues, l'employeur a l'obligation d'informer et d'informer les employés par rapport aux risques qu'il y a dans ce genre d'environnement de travail.
Oui. La meilleure manière d'ailleurs d'informer ses propres travailleurs, c'est leur doter d'un équipement qui puisse leur le protéger. Parce que donner une information est une chose, mais équiper en est aussi une autre chose. On ne va quand même pas renvoyer quelqu'un dans un environnement qui lui est nuisible par le fait qu'on lui a donné une information. Donc l'information passe déjà par la sécurité. C'est ce qui fait que dans la plupart d'entreprises, quand on engage quelqu'un, il fait ce qu'on appelle dans un langage qui est devenu presque entrepreneurial, l'induction. C'est-à-dire, la personne fait presque une immersion par rapport aux normes de sécurité appliquées dans cette entreprise-là. Et si cette personne est engagée et qu'elle ne respecte pas ces normes, et ça devient fautif et la personne encourt une sanction. Donc, l'information est bel et bien donnée, mais la meilleure manière de donner cette information, c'est doter ses propres agents d'un équipement qui puisse les protéger par rapport à l'environnement dans lequel ils travaillent.
Bien, nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Dieu merci, nous appelons de Kisangani et Gentil Lumanu de Kananga. Des questions et préoccupations, composez les 081-890-63-94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelles sont les normes de sécurité et de santé au travail? Dieu merci, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, moi je suis d'abord expert en santé publique en formation. Donc quand on parle de la sécurité au travail, on fait allusion aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Dans notre pays, il se fait malheureusement qu'on n'a pas la filière des médecins et du travail. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des médecins dans les entreprises. Maintenant, à ce qui concerne la sensibilisation, moi je pense que dans la sensibilisation dans l'organisation, il y a d'abord ce qu'on appelle les mesures de protection individuelles et les mesures de protection collective. Donc, normalement, chaque entreprise devrait avoir un médecin en prévention. Un médecin en prévention n'est pas un médecin de l'entreprise qui traite. Parce qu'un médecin en prévention, il ne se pose pas la question seulement de savoir qu'est-ce que tu as mangé, mais il se pose la question devant un travail, qu'est-ce que vous avez comme travail. Et c'est ça vraiment le vrai problème. Maintenant, je pose à l'invité la question, quelqu'un qui n'est pas assuré à l'INSS, est-ce qu'il peut se plaindre d'un accident de travail ou de risque professionnel? Voilà un peu ma préoccupation.
Bien, merci. Gentil Oumanou de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du show.
Quelle est votre question?
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Si j'ai bien suivi notre invité lors de son introduction, il a parlé que l'objectif principal est de rendre zéro accident. Alors, je voulais demander à notre invité, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre zéro accident les normes de sécurité de santé au travail? Ça, c'est ma première question. La seconde question, les primes de risque qu'on donne aux travailleurs, soit aux docteurs. Souvent, moi, j'ai travaillé dans un institut sanitaire où on donne seulement ces primes-là aux médecins ou on prive d'autres corps. Alors, ces primes-là reviennent toujours aux médecins ou par rapport aux autres corps, aux soignants. Merci beaucoup, c'est gentil, le manodécan dans la nouvelle vision.
Monsieur Yvon Kalinga, vous avez la parole.
Non, merci beaucoup. Je salue aussi les deux intervenants de tout à l'heure par rapport aux questions qu'ils me posent. Je commencerai par la première question de notre frère de Kisangani, hein, qui lui est spécialiste en santé, il a dit en santé publique, je pense. Hein.
Oui.
Il dit, lorsque on n'est pas assuré à l'INSS, peut-on se plaindre, peut-on aller se plaindre auprès de l'INSS en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle? En principe, lorsqu'on est engagé, l'entreprise a l'obligation de vous faire assurer à l'INSS. C'est d'ailleurs parmi les premières formalités d'engagement. Lorsqu'on vous donne un numéro matricule, dans les mois qui suivent, vous devez aussi avoir un numéro de l'INSS. C'est-à-dire vous devez être affilié à l'INSS. D'ailleurs, depuis quelques années, je vois l'INSS descendre pratiquement dans beaucoup d'entreprises pour procéder à la cartographie biométrique hein, de tous les travailleurs. Lorsqu'un accident vous arrive et que vous n'avez pas été affilié à l'INSS, ça signifie en principe que vous n'avez pas donné votre propre contribution. Il faut demander à l'entreprise, toutes les fois que les contributions ont été prélevées sur votre salaire, et ces contributions sont allées à l'INSS. Si ces contributions sont allées à l'INSS, vous avez le droit de refaire la démarche pour obtenir un numéro de l'INSS parce que vous avez contribué. L'État ne peut pas accepter qu'une entreprise ait des agents et que ces agents ne soient pas affiliés. Or, nous connaissons ce que sont les entreprises aujourd'hui. C'est que tout ce qui revient à l'État, l'impôt, l'INSS et tout ça, c'est directement prélevé. Si vous avez des documents qui prouvent à suffisance que chaque mois vous perdez votre contribution au bénéfice de l'INSS, donc vous êtes en droit, à partir par exemple de vos bulletins de paie, d'aller vous plaindre auprès de l'INSS et l'INSS est en mesure d'inviter votre employeur pour essayer de régulariser la question qui vous préoccupe.
Et l'autre question, c'était par rapport au médecin de
travail. De prévention, oui.
Il dit que chaque entreprise... Oui, je le connais très bien.
Oui.
Oui. Je reconnais très bien qu'en République démocratique du Congo, il n'y a aucune institution qui ferme le médecin de travail. Mais la législation invite aussi aux employeurs qui ont des médecins de travail de leur donner une formation répondant pratiquement aux normes de sécurité qui se trouvent dans leurs propres entreprises. Parce que tout au départ, un médecin, il a la formation générale. Donc la formation ayant trait au travail, à la sécurité du travail, devient une formation spécifique. Il s'est fait malheureusement que certains se forment par la pratique ou se forment sur le temps au fur et à mesure qu'ils sont face à des incidents malheureux lors de l'entreprise, ils se forment. Mais l'entreprise a l'obligation de pouvoir donner une formation nécessaire à ces médecins-là pour qu'ils répondent. Parce que l'objectif, c'est atteindre zéro accident. Pour mieux atteindre zéro accident, je crois qu'il faut avoir des agents suffisamment formés sur cette question-là.
Voilà,
quant à notre intervenant du Kassai, il me pose la question, quelles sont les mesures de sécurité qu'il faille mettre en place pour atteindre zéro accident. Zéro accident est un objectif, et un objectif d'ailleurs idéalisé. Parce qu'en réalité, il y a toujours des petites choses qui échappent, soit à l'esprit de l'homme, soit à l'environnement même dans lequel on travaille. Admettons que quelqu'un arrive, par exemple, affamé sur le lieu de travail. C'est qu'il n'a pas ses propres aptitudes. Et quand il n'a pas ses propres aptitudes, peut-être on n'a pas eu le temps de les vérifier. Bon, par inadvertance, cette personne peut connaître un accident. C'est-à-dire, l'objectif, c'est atteindre zéro accident, mais on va faire un effort pour minimiser le plus possible le nombre d'accidents. C'est ainsi que lui-même, déjà dans son intervention, il parlait de la prévention. Donc, avant qu'on en arrive au curatif, on passe par la prévention. La prévention peut se faire, par exemple, dans certaines entreprises minières. Chaque activité laborieuse commence toujours par un meeting matinal, où on reprend les normes de sécurité, où on reprend l'environnement dans lequel on va travailler, et ça prépare mentalement le travailleur à mieux se débrouiller sur le lieu du travail. Donc on invite chaque fois les entreprises à procéder à des meetings comme ça, des sensibilisations de ce genre-là, pour pouvoir éviter en arriver à un accident. Donc en amont, il y a la prévention avant qu'on en arrive au curatif. La deuxième question, c'est par rapport aux primes de risque. La prime de risque qui est attribuée au médecin, c'est par rapport à l'environnement dans lequel il travaille. C'est-à-dire, par mauvaise manipulation, par exemple, du sang, vous pouvez vous blesser finalement, attraper, par exemple, le VIH-SIDA ou attraper n'importe quelle maladie qui peut se transmettre. Alors, pour prévenir ou pour essayer de rendre plus prudent ces personnes qui travaillent dans cet environnement-là, on leur donne une prime de risque. D'ailleurs, il est démontré jusqu'à ce jour que la prime est donnée par incapacité de pouvoir réduire un tel événement. D'ailleurs, quand on donne une prime de risque, on voudrait tout simplement montrer qu'on n'est pas en mesure d'atteindre une sécurité totale par rapport à cette question, mais en primant ces personnes-là, on ouvre leur esprit à la prévention, et bon, c'est presque une espèce de contrepartie par rapport à une éventualité d'un accident qui surviendrait pratiquement dans votre environnement. Si infirmiers et médecins travaillent tous dans un même environnement, dans un environnement où ils peuvent être victimes, la logique simple, c'est que la prime doit être donnée à tout le monde. Mais il se fait malheureusement que, bon, dans certaines structures, par manque de moyens ou par mauvaise foi, bon, on donne à une certaine catégorie. Je pense peut-être parce que les médecins ont une corporation, ils peuvent facilement défendre leurs intérêts alors que la corporation d'infirmiers est encore en gestation. Bon, ça c'est peut-être moi qui les pense comme ça. Voilà comment je répondrai à ces différentes préoccupations.
Quelles sont les normes de sécurité et de santé au travail? Yvan Kalenga, spécialiste en psychologie du travail, et notre invité depuis Lubumbashi. Jean-Pierre Olenga, vous êtes à Kindu, Lauriane Kizamina à Kinshasa. Jean-Pierre, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir auprès de l'invité, pour savoir quelles sont les normes ou les critères qu'ils observent pour octroyer à un groupe des travailleurs le prime des risques. Parce que les enseignants, par exemple, vous savez que la craie qu'ils utilisent, les poudres là de la craie peuvent causer peut causer des énormes dégâts aux enseignants. Il y en a de ces enseignants-là qui souffrent même de la tuberculose à cause de cette poudre de craie. Mais pourquoi un enseignant ne peut pas aussi être bénéficiaire de ces crimes et des risques? Mais on entend partout dans d'autres secteurs, on parle des crimes et des risques, mais pas les enseignants. Quels sont les critères qu'ils observent pour octroyer à un groupe de travailleurs les primes et des risques? C'est ce que je voudrais savoir auprès de notre invité.
D'accord, merci. Lauriane Kizamina de Kinshasa, bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour Jody, au fait, je vais dans le même sens que M. Jean-Pierre par rapport aux critères de sélection pour pouvoir octroyer les primes des risques. Mais en dehors de cela, il y a, bon, je parle plus du secteur des centres d'appel. Est-ce que, parce que ce sont des services qui sont généralement sous-traités. Alors quand ces sous-traitances-là obtiennent des licences d'exploitation, ainsi de suite, qu'est-ce que les autorités en place font pour suivre ces genres de départements, pour voir par exemple comment sont traités les employés? Parce que généralement, ils n'ont pas vraiment accès aux bons soins de santé, parce que soigner l'oreille, ça coûte très cher, et généralement, on donne des soins négligés. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'au bout de 3-4 ans, quand on sent que le personnel devient trop plaintif, on change de personnel, on licencie ceux qui étaient là. Donc, ça crée vraiment l'insécurité dans l'environnement du travail. Alors, j'aimerais savoir ce que l'autorité fait ou prévoit pour pouvoir améliorer ce secteur. C'est vraiment un bon secteur de travail, mais qui ne fait pas vraiment espérer vu les conditions dans lesquelles les gens travaillent.
Alors, vous voulez dire que ceux qui travaillent dans les call centers, dans les sociétés de téléphonie cellulaire, sont exposés à des risques
Oui, avec les oreilles.
Avec
ça dérange beaucoup. Généralement, au bout d'une année, une année et demie, ça commence à déranger. Et alors, leur stratégie, c'est quoi? Faire partir généralement les gens au bout de 3-4 ans, on remplace des remplacements et des remplacements pour pallier à ces problèmes, au lieu de trouver une vraie solution. Parce qu'après, quelqu'un qui tombe malade, qui a des problèmes des oreilles, c'est toute la vie qu'il a ce problème-là.
Alors, sont-ils exposés au bruit ou c'est tout simplement parce qu'ils sont tout le temps au téléphone en train de parler avec les gens?
Ils sont au téléphone généralement de 8h à 17h. Ce sont des gens qui émettent et reçoivent des appels environ 100, plus de 100, 150 appels par jour.
D'accord. Merci. Yvan Kalinga.
Oui, merci beaucoup à Jean-Pierre et à Lauriane et salutations. Les critères pour pouvoir attribuer une prime des risques. Je vais plus m'apesantir sur l'exemple qui donne l'exemple des enseignants. La législation en République démocratique du Congo ne reconnaît, je crois, qu'une dizaine de maladies professionnelles. Et ce sont les maladies pour lesquelles il y a une indemnisation, il y a eu une prime, ainsi de suite. Il faudrait, au préalable, que cette législation d'abord revoie. Et cette législation, moi je crois qu'il faut d'abord amener un lobbying, démontrer à suffisance que la craie a une incidence sur les systèmes respiratoires de la personne. S'il y a une telle démarche, un tel lobbying qui démontre à suffisance qu'il y a une relation directe entre l'usage de craie et les risques d'attraper une pneumonie ou d'attraper une tuberculose, on peut maintenant commencer une démarche vers la révision de toutes les maladies professionnelles qui sont reconnues légalement en République démocratique du Congo. Moi, je me dis, aussi longtemps que cette relation ne sera pas établie et aussi longtemps qu'on n'aura pas revu cette cartographie des maladies professionnelles, c'est que rien ne sera fait. Moi, je crois que les enseignants constituent la grande corporation professionnelle en République démocratique du Congo. Et maintenant qu'ils ont des mutuelles, je crois des mutuelles de santé, ça devient plus facile qu'ils mènent ces lobbying, qu'ils établissent la relation directe qu'il y a entre la poussière de craie et les risques de partager une pneumonie ou une tuberculose. Si cela est démontré scientifiquement, je crois que ça permettra à l'État de revoir la cartographie des maladies professionnelles pour que une prime soit établie. Mais si il n'est pas encore démontré que cette prémonie que rencontrent les enseignants a une relation directe avec cet usage, donc ça sera beaucoup plus facile. Alors que dans le domaine médical, par rapport à des manipulations, donc on sait facilement établir le rapport. C'est ce qui fait que le médecin sont peut-être, c'est la seule, je pense, corporation qui a une prime des risques par rapport. rapport à des corporations, au-delà certains emplois dans certaines entités lors des manipulations, par exemple, des produits chimiques, de ceci, ainsi de suite. Voilà comment, moi, je répondrai à la question de l'intervenant de tout à l'heure. Qu'ils se saisissent des mutuelles qui sont là et que si les mutuelles peuvent démontrer à suffisance aujourd'hui qu'il y a une relation directe entre la manipulation de la craie et la survenue de pneumonie ou de tuberculose, je crois que ce sera un premier pas, une avancée vers la régularisation de pathologies professionnelles pour que cela soit indemnisable.
Mmh.
Et par rapport à Lauriane, critère de risque, elle parle de call center. La première des choses pour que ces métiers soient indemnisés, il est souvent demandé à chaque entreprise de procéder à des examens physiques, à des aptitudes physiques de l'agent avant que cet agent ne soit engagé. Si il se révèle vrai que vous avez une audition saine lors de votre engagement et qu'à l'issue de 4 années de service, on détecte que l'audition s'est détériorée, on suppose que c'est par rapport à l'emploi que vous étiez en train d'exercer,
alors,
au métier que vous étiez en train d'exercer.
Yvon Kalenga, oui. Est-ce qu'on peut dire que l'employeur doit déjà, avant d'engager la personne, lui tenir informé des risques qu'il y a par rapport à ses métiers et des mesures à prendre pour éviter les maladies?
Oui. Oui, l'employeur est censé le faire, mais l'employeur évite directement donner une information si pas lui trouver des mesures de protection. C'est comme ce que je vous ai dit avant. On préfère équiper la personne pour lui dire tu seras protégé par rapport à ça que lui dire directement que l'emploi que tu prends là, il y a risque d'attraper telle maladie. Parce que psychologiquement, ça peut déstabiliser une personne. Mais en lui dotant d'un équipement, on rassure que l'emploi qu'il est en train d'exercer, il peut y être protégé. Mais c'est une obligation de part que l'État donne à chaque entreprise, chaque employeur, de donner une information suffisante sur l'emploi à exercer ou l'emploi pour lequel on engage une personne. Alors, voilà. Si se révèle par rapport au call center, si se révèle que 4 ans après l'exercice des métiers, l'audition s'est détériorée, la personne est en droit de se plaindre à partir d'une aptitude physique dès l'entrée en emploi et la sortie en emploi. D'ailleurs, il est même recommandé à l'employeur de procéder à ses examens presque chaque 6 mois ou chaque année pour essayer d'évaluer soit les niveaux de détérioration, les niveaux d'amélioration. Une aptitude physique, on l'a pas pour toute la vie. On l'a selon une certaine période. D'ailleurs, je crois selon la loi, c'est chaque 6 mois, chaque semestre, que les agents doivent passer par un contrôle de leur aptitude anthropométrique et mentale.
Oui. Alors certains disent que par rapport aux normes de sécurité, de santé au travail, l'employeur doit assurer, les employés doivent se retrouver dans des bureaux bien aérés et bien assainis, l'éclairage doit être assuré, la protection contre le bruit, et puis on parle de la protection contre le tabac, des installations sanitaires, hygiéniques propres, et la restauration du personnel, l'employeur doit également tenir compte de cela et prévenir aussi les risques d'incendie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
Oui, c'est ça que j'ai dit déjà en début quand je commençais. C'est-à-dire, l'environnement de travail a toujours certaines nuisances. Par exemple, quand il y a une lumière trop exagérée, il y a trop de bruit, et surtout trop de bruit est permanent, ça joue sur des capacités auditives ou des capacités visuelles. Alors, il est souvent recommandé, d'ailleurs, l'entreprise avant que... D'ailleurs, lors de la construction, l'entreprise est censée faire venir... il y a une spécialisation qui commence à naître à la République. Les designers, ils sont censés arriver sur un endroit et déterminer pratiquement le niveau, par exemple, des décibels qu'une oreille peut écouter et que peut l'écouter pendant combien de temps. Le niveau aussi d'éclairage, la lumière qui est lancée, quelle est la capacité. D'ailleurs, ça joue même sur le mur. Quelle est la couleur de mur pour pouvoir atténuer la lumière, qu'elle n'ait pas d'influence sur... sur l'exécution. Donc, la première des choses, dès que démarre une entreprise, ces normes doivent être respectées. C'est ainsi qu'au départ, on commence par ce qu'on appelle une inspection technique. Et c'est l'inspection technique qui vérifie si toutes ces normes-là sont d'application dans l'environnement dans lequel va devoir travailler les futurs employés. Donc c'est une exigence, c'est déjà le premier pas de prévention contre la survenue soit des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
Bien. Ismaël Mumpoy nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à mon voisin, l'invité.
On vous écoute.
Ok. La première question est de savoir, entre l'État et le privé, qui peut payer la prime de risque? À la question où il y a une contribution dont je demandais, la plupart de ceux qui fonctionnent ici dans la société minière, voyez, une personne qui travaille même jusqu'au four, il est un journalier. Mais comment on peut faire l'évaluation pourvu que ces derniers puissent avoir aussi la prime de risque parce que celui-ci travaille en tant que journalier. Mais par rapport au pourcentage de tous ceux qui travaillent ici, comment lui peut apprécier et comment ces derniers peuvent avoir aussi les avantages que retire aussi la prime de risque. Je vous donne un témoignage. J'ai mon client qui travaille chez un privé. Mais juste à la sortie de la porte de l'entreprise, il est tombé, il est fracturé. Quand on a appelé le directeur, il a dit « ce dernier est fracturé ». Il a démarré que le véhicule, il est parti. Maintenant, au titre d'exemple que la plupart de ceux qui travaillent sont dans des privés. Comment on peut faire l'évaluation pour savoir que nos partenaires congolais souffrent et ils peuvent avoir aussi les gains que la prime de risque? C'est ça ma préoccupation. Merci.
Bien, Yvan Kalinga.
Oui, merci beaucoup. C'est Monsieur Kachama, je pense. Hein.
Ismaël Mumpoy.
Ismaël Mumpoy, d'accord, voilà. D'accord. Oui, entre l'État et le privé, qui est censé payer une prime de risque? Et l'État et le privé est censé payer une risque. Surtout quand vous mettez des personnes dans un environnement non sécurisant, vous êtes obligé, la loi vous oblige de donner cette prime de risque. Donc ce n'est pas une prérogative d'une seule entité. Quand vous êtes un employeur et que vous avez des agents qui travaillent sous un environnement comme celui-là, vous êtes censé donner cette prime de risque. La prime de risque pour le journalier. Bon, là, il se pose maintenant un sérieux problème. Parce que aujourd'hui, on constate qu'on peut être journalier pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et pourtant, la loi est claire là-dessus. Lorsqu'on a exercé pendant 6 mois et que rien n'a été fait, de fait, vous signez un contrat et vous devenez un agent de cette entreprise et que l'entreprise est censée vous prendre sous sa protection. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que on peut rester 6 mois, 7 mois, 8 mois, même une année, 2 ans, ça, en ne restant que journalier, donc simple contractant, payé à la tâche, ainsi de suite. Je crois que c'est aussi peut-être, à mon sens, des risques aussi que nous prenons. Comment voulez-vous? Bon, je sais que la vie est difficile. Mmh. On va partout où on peut trouver du travail. Mais je crois qu'à un certain moment, au-delà du fait qu'on a besoin du travail, il faut quand même prendre un certain recul, analyser les conséquences qui peuvent en advenir, travailler dans un environnement moins sécurisant par le fait qu'on va chercher un salaire. Parce que bien, c'est bien le salaire. Mais si ça peut réduire votre espérance de vie, bon, alors à quoi ça servirait? Je crois qu'à mon sens, ceux qui signent le contrat, ceux qui acceptent de faire de telles activités, doivent intégrer dans leur perception, dans leur manière de signer ce contrat-là, des questions liées, par exemple, aux risques dans lesquels ils vont devoir travailler. Par rapport à son ami qui était sorti et qui s'est fracturé à la porte. On parle d'un accident. L'accident de travail, quand on le définit, on lui dit, c'est sur le trajet vers le travail, sur le trajet du travail vers la maison. Cette personne venait de finir son travail et il était sur le trajet vers la maison. Et comme il est sur le trajet, donc il est couvert par la définition d'un accident de travail. Et par conséquent, l'employeur était censé le prendre en charge par rapport à cette question-là. Et d'autre part, je constate seulement que, heureusement, Radio Capi est là, me donne quand même la parole pour pouvoir sensibiliser. Beaucoup de gens ne connaissent pas, disons, et les normes et la législation par rapport à cette question. Mm-hmm. Ce qui fait que quand pareille situation arrive, bon, on est pris au dépourvu, on a l'impression que la réponse que donne l'employeur est celle qu'on mérite réellement. Moi, je crois que... De telles émissions comme celle-ci peut toujours permettre à ce que les gens fassent très attention à la loi, connaissent la loi et défendent cette loi, et surtout lorsqu'elles sont victimes.
Bien, merci Yvon Kalinga. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychologie du travail, intervenant depuis Lubumbashi. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.
Oh, merci beaucoup. Mais je voulais donner aussi une petite information, toujours dans le cadre de la sensibilisation par rapport à la journée du 28, comme c'est une journée de santé et sécurité au travail. Oui. La société de psychologie à laquelle j'appartiens organise d'ailleurs une journée de réflexion sur le thème qui est retenu cette année, c'est le stress, un défi collectif. Alors nous organisons une journée de réflexion, c'est jeudi à Lubumbashi, à la maison de formation culturelle et chrétienne Safina, et il y aura des intervenants venant du monde brassicole, du monde minier, du monde scientifique, de l'État et les membres même de la société de psychologie. Et je profite pour inviter tous ceux qui veulent venir partager cette expérience avec nous et de nous joindre jeudi à partir de 15h30 à la maison Safina à Lubumbashi.
Bien, à la prochaine.
Merci.